Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Ondes Femmes, comme tous les mercredis en direct de 17h jusqu'à 18h30, d'abord dans Remue-ménage, puis c'est les informels de Radio Pleine Lune à 18h30 et l'agenda de la semaine. Et vous nous retrouvez, comme nous venons de vous le dire, avec une petite erreur de programmation, vous nous retrouvez soit à 23h le mercredi soir, soit à 11h le jeudi. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu un rendez-vous particulier dans le sens de son déroulement. La semaine passée, dans les informels de Radio Pleine Lune, nous vous avons annoncé une table ronde avec des femmes qui sont impliquées dans la préparation de la conférence de Vienne sur les droits de l'homme avec un grand H, droits de la personne comme nous aimerions les appeler, ou droits humains, et qui réunissait donc table ronde des femmes venues du monde entier pour essayer de faire entendre la voix des femmes dans la rediscussion de cette déclaration, rediscussion qui aura lieu donc dans une conférence qui aura lieu à Vienne entre le 14 et le 24 juin prochain. En l'occurrence, nous aurions aimé les avoir avec nous à l'antenne la semaine passée pour vous annoncer cette table ronde. Et puis, ce jour-là, les choses ne se sont pas faites comme ça. Mais en ce qui me concerne, j'en suis très heureuse parce que finalement, la rencontre que nous avons faite mercredi passé autour de cette table ronde a permis de nous découvrir beaucoup mieux les unes et les autres. Et c'est aujourd'hui, finalement, que nous nous retrouvons à propos de ce thème avec en direct Maria qui est du Costa Rica. Pour l'instant, elle ne comprend pas grand-chose ce que je raconte parce que je le dis en français et que Maria s'exprime en espagnol, bien sûr. Pour nous, elle s'exprimera en anglais parce que, en ce qui me concerne, j'ai plus de facilité à traduire l'anglais que l'espagnol. Et Maria, en plus, ça a été une surprise magnifique, travaille, elle, dans un réseau féministe de radio sur ondes courtes. Et bien évidemment, la rencontre de notre radio de femmes et de sa radio de femmes a été quelque chose de très heureux, bien évidemment, dont nous avions absolument envie de profiter et faire un programme ensemble cet après-midi. Alors, on va un petit peu partager notre conversation en trois parties. Nous allons bien sûr d'abord accorder de l'importance à pourquoi Maria, avec beaucoup d'autres femmes du monde entier, est là pour intervenir à la Commission des droits de l'homme à Genève qui prépare cette fameuse conférence de Vienne. Qu'est-ce que les femmes sont venues faire dans ce lieu plus qu'institutionnel qu'est l'ONU ? Et puis peut-être très concrètement, qu'est-ce que les femmes d'Amérique latine ont à proposer en particulier pour cette conférence ? Et puis en troisième partie, eh bien, on discutera avec Maria de ce qu'elle fait dans sa propre radio avec le groupe de femmes avec lequel elle anime cette radio. Vous verrez que c'est autre chose que Ondes Femmes, qu'on entend cette radio qui s'appelle Fire dans le monde entier et que nous aimerions bien, nous aussi, nous brancher sur ce réseau de radio. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors tout de suite, Maria, alors il va y avoir un petit ralentissement de discussion. J'espère que cela ne vous gênera pas trop. Juste une petite précision encore. Tout au long de notre conversation, nous serons accompagnés par la musique et les chants de diverses femmes africaines, chacune de son pays, qui nous sonnera. Alors je vous dirai au fur et à mesure les noms et vous découvrirez 12 chanteuses africaines. So, Maria, maybe we have to begin first to explain to our listeners why the women are here in Geneva in with the idea to interfere, to prepare the conference in Vienna. So, je demandais à Maria, donc pourquoi des femmes sont ici à Genève pour préparer, pour participer à cette conférence préparative de Vienne.
Well, maybe I should start up by saying that the main reason why women from Latin America and the Caribbean have decided to get involved in the preparations towards the United Nations Human Rights Conference, the main reason is because somewhere in our history, women have decided that we have to be everywhere and that our issues have to be heard and taken into account everywhere. And by everywhere, I'll tell you what I mean after you translate.
Alors, la raison principale qui fait que les femmes d'Amérique latine et d'ailleurs sont là, c'est parce que les femmes dans leur histoire, de toute façon, ont cherché à être entendues partout, elles veulent être entendues partout et elles veulent que leur point de vue, leur proposition puisse être considérée maintenant, aujourd'hui.
When women in Latin America and the Caribbean heard for the first time in 1989 that there was going to be another United Nations Human Rights Conference, this was in a time when women were disenchanted with what was happening in our part of the world and everywhere else, and we were also very organized and mobilized. These are the two situations that we faced when we heard about the announcement of such conference.
Alors en 1989, lorsque les femmes d'Amérique latine et des Caraïbes ont entendu parler pour la première fois de l'organisation de cette conférence, eh bien, elles étaient dans un moment où elles étaient vraiment très choquées de ce qui se passait dans leur la partie de leur monde, donc en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais en même temps, elles étaient à un moment donné où elles étaient très organisées et prêtes à se battre pour un certain nombre de choses.
1989 was a year when the disenchantment of women was expressed, because after many decades of women struggling within the human rights movement to achieve democracy, to achieve peace, to achieve the right to development, to achieve the right of participation, what the experiences in Latin America on these processes, after we had put so much effort in them, had put us women aside.
Alors, Maria continue en disant qu'en 1989, les femmes étaient en quelque sorte un petit peu effondrées par ce qui se passait autour d'elles, parce que depuis plusieurs décades, elles se battaient dans les mouvements concernant les droits de la personne. Par exemple, le droit à la démocratie, le droit à la participation, le droit au développement. Et malgré tous les efforts qu'elles avaient produits dans les divers mouvements, eh bien, elles se trouvaient toujours à être de côté, mises de côté.
And we have a history of protagonizing, organizing, and struggling for those rights because we believed that they were going to include us and that finally women would have our rights and our needs recognized if we achieved some kind of democracy, some kind of peace within the many wars that are taking place in Latin America and the Caribbean, and would achieve some kind of right to development in a context where neoliberal policies that have to do with privatizing services that in many countries we never had and in other countries were slightly achieved and that we are losing now.
Alors, elle s'organisait, elle se battait et ainsi croyait qu'on allait peut-être les inclure dans cette conception des droits humains, dans la mesure où elle réussirait à réaliser, à concrétiser un certain nombre de droits démocratiques qui existent dans certaines régions du monde et qui n'existent pas dans d'autres parties du monde.
So that is why we are disenchanted when we found out that there was going to be a human rights conference, because we realized that although we took part, very active part, in the processes where the Latin American and Caribbean peoples demanded those rights, once those processes started having some kind of a face, we were outside of them. But I also told you that when we found out about this conference, women were very organized. And that has to do with the fact that we have been the protagonist of the defense of promotion of everybody's rights in our countries. If you look at the history of, for example, the families of the disappeared in Latin America, who are those organizations? Who are the human rights organizations composed mainly of women that took up the streets when there was dictatorships and armies that didn't allow anybody to come out of their houses? And at a time when the men were staying in their homes, women whose place had been the home were taking the streets to demand that they disappeared be brought back.
Alors, pour toutes les raisons qu'elle a dit tout à l'heure, voilà pourquoi les femmes étaient un petit peu désenchantées, enfin déçues, et ce poids, toutes ces choses pesaient sur leurs épaules, parce qu'elles constataient définitivement que malgré leur grand engagement, elles se trouvaient, lorsque ce processus de construction des droits de l'homme a pris quelque chose comme une forme, eh bien, elles étaient marginalisées de ce mouvement. Pourtant, comme elle disait tout à l'heure, les femmes étaient extrêmement organisées en Amérique centrale et en Amérique latine à cette époque-là. Il y a un exemple qui est très clair, c'est dans la défense des droits humains qu'en tant que mouvement de femmes, elles ont défendu, et d'ailleurs pour tous, pas seulement pour les femmes, c'est l'exemple des personnes disparues. Qui est-ce qui a défendu les personnes disparues, voulant qu'on sache ce que sont devenues ces personnes et qu'elles puissent, les familles puissent avoir de leurs nouvelles? Eh bien, c'était les femmes qui, alors que normalement elles auraient dû être dans leur maison, en même temps même que la dictature imposait un contrôle très fort qui faisait que, eh bien, il fallait descendre dans la rue, il fallait occuper la rue pour exiger ces choses-là, eh bien, c'est les femmes qui étaient dehors et qui occupaient la rue, alors que les hommes, eux, se tairaient dedans.
So then we started looking at our societies, at human rights, and at ourselves. In this disenchantment and the empowerment that we had developed by putting our efforts to achieve human rights. And we started looking at human rights and saying, okay, human rights is for humans. Humans are men, because anything that has to do with our situation as women is put aside in those processes. And I will give you some examples. When you think about refugees, who do you think about? Some woman or man or child, be it man or woman, that has had to leave their countries because they have been persecuted, repressed for any kind of differences, that has had to leave the country or has had to stay in their countries and move to another side. And we started asking ourselves, when a woman has to leave her house because she's being battered and she has to take her children and some pieces of clothes and move to another house, another city, or another country because she's being battered in her house, isn't she a refugee?
Alors, elles, donc après tous ces questionnements qu'elles ont faits pour voir le fossé qui existait entre leur engagement tellement important aux côtés des droits de la personne et puis le fait qu'elles étaient marginalisées, elles ont continué à faire cette comparaison. Elles ont constaté que ce qu'on appelait les droits humains, en français d'ailleurs, c'est très clair, on dit les droits de l'homme, et même si on essaie de mettre un H majuscule, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Eh bien, en fait, c'est les droits des hommes, effectivement, puisque les femmes sont complètement mises de ce côté. Je me permets juste de rajouter que c'est donc cette chose-là essentiellement qui est remise en cause et que les femmes veulent porter à la conférence de Vienne. Alors, un exemple très particulier, bien évidemment, c'est le cas des réfugiés. Les réfugiés, ce sont des hommes, ce sont des femmes, des enfants qui doivent quitter leur pays parce qu'ils sont persécutés. Et bien évidemment, on peut se poser la question de lorsqu'une femme doit quitter sa maison, emmener son enfant sous le bras et quelques habits pour se réfugier dans un autre pays parce qu'elle est persécutée, n'est-elle pas, elle aussi, à considérer comme une femme réfugiée ? Entre-temps est arrivée Viviane, Viviane qui aimerait bien intervenir dans notre conversation. Oui, Viviane ?
Non, c'est juste un problème de traduction. Je veux dire, elles sont persécutées parce que, éventuellement, par exemple, elles sont battues par leur mari. C'est donc pas une persécution par l'État, mais bien par une persécution privée.
I will take another example. The concept of disappeared. If you think about who the disappeared are, immediately we think about those people, be it men or women, that have been taken by the police, the army, or by the state, and taken away and either killed or imprisoned in clandestine jails, and society and their relatives, and we don't know anything about them. And I ask all of you listening out there what we have asked ourselves as women in Latin America. Aren't we disappeared when, for example, as you call it, droit de l'homme, women are not mentioned with rights? Isn't that being disappeared? And the example that we have been using is precisely Olympia de Gaulle also. The French Revolution, which gave the first declaration of rights for men as citizens, it was called. We didn't know until now that there were more women that went to take over the Bastilla than there were men. I bet you didn't know because you're looking at me with some kind of surprise.
Yes, that's
we have
true.
Had to look into history because history has disappeared women from their way in which they report what has happened. Now, Olympia de Gong, she was within them. And when she saw that after the revolution, there was a declaration that was called the Declaration of Men and Citizens, then she dared to write a declaration of women citizens and women. And she was hung for it. And we don't even know that declaration. And we don't know her history and the history of the many women, majority women, that took over the Bastilla so that the revolution could come to be. That is being disappeared. But that is not in the concept of human rights.
Viviane, si jamais j'en oublie la moitié, tu m'aides. Hein. Alors, toujours dans cette conception de, où les femmes sont complètement écartées et marginalisées, elle reprend un exemple de problème de droit de la personne. En parlant des disparus qu'elle évoquait tout à l'heure, il y a des hommes et des femmes qui ont été emprisonnés, tués par la police, par l'armée, par l'État et qui ont été dans des prisons clandestines, on ne sait plus rien d'eux. Et elle nous demande à tout, elle nous questionne, tout comme elles se sont questionnées en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, des femmes disparues, ou les femmes ne sont-elles pas des disparues, alors même qu'elles n'existent absolument pas, elles ne sont pas mentionnées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et elle prend un exemple historique pour encore montrer, Maria prend encore un exemple historique pour montrer cette chose-là, en évoquant la première déclaration des droits de l'homme, qui s'appelait Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été proclamée en 1789 lors de la Révolution française. Eh bien, qui est-ce qui sait, parce que l'histoire fait beaucoup disparaître les femmes, qui est-ce qui sait qu'Olympia de Gouges était parmi les nombreuses femmes, et Maria disait, c'est là que j'étais étonnée, qu'il y avait, semble-t-il, plus de femmes qui ont attaqué la Bastille qu'il n'y avait d'hommes. Alors, sait-on d'abord cela, et sait-on que le jour quand Olympia de Gouges a constaté que la première déclaration s'appelait « De l'homme et du citoyen » a fait une déclaration de l'homme et de la femme, et qu'elle a été pendue pour cela. Oui, comme on dit, décapitée. Oui, à l'époque, on décapitait. Voilà. Donc, encore une preuve des femmes disparues dans l'histoire et dans les faits.
And I will give you one example like that one, bringing it to 1990. And I will go now and take all of you to El Salvador. El Salvador is the smallest country in Central America. It has been in a state of war, very hard war for the last 10 years, probably in war for the last 50 years. And the Salvadorian women have been in the struggle for the achievement of peace, the right to development, and the right to elect representatives to the governments in a context of the state dictatorships for more than 50 years. Women participated in that process just like Olimpia de Gauche and the many other women that did so in the French Revolution. And the women from El Salvador participated in it because they wanted peace. Now that there is a peace process in El Salvador, where have we seen one single statement from the two parties in conflict, one single statement that mentions some kind of means to end violence against women as a way of achieving peace? It has disarmament, it has free elections, it has democratic participations, and all of those have to do with peace. But what about peace for women? So long as there is violence against women, there is no peace for women in El Salvador or anywhere.
Maintenant, elle aimerait nous emmener au Salvador. Au Salvador, qui est le plus petit État d'Amérique centrale, où il y a la guerre depuis 10 ans, comme nous le suivons tous et toutes depuis un certain temps déjà. Et les femmes, tout au long de ces années de guerre, se sont battues pour instaurer la paix, se sont battues pour le développement, se sont battues pour obtenir des élections qui permettraient au peuple de choisir son gouvernement, et tout cela depuis même bien plus longtemps qu'avant la guerre, pour plus de 50 ans. Et elles ont participé donc au processus, tout comme, on le disait tout à l'heure, les femmes ont participé à la Révolution française sans qu'on le sache autrefois. Elles ont participé autrefois sans qu'on le sache aujourd'hui. Et justement, pourquoi encore une fois cette comparaison avec la Révolution française? C'est parce que les femmes qui ont participé à tout ce processus, elles l'ont fait parce qu'elles voulaient la paix. Aujourd'hui, au Salvador, on est en train de signer la paix et il s'avère qu'on ne trouve nulle part trace d'un article ou d'une loi qui exige l'arrêt des violences contre les femmes comme étant une façon de construire la paix au Salvador, donc de signer les accords de paix. On signe des accords à propos de désarmement, à propos d'élections libres, de démocratie, et tout ça évidemment participe à faire venir et se réaliser la paix. Mais il n'y a rien qui concerne la paix pour les femmes. Et tant qu'il y aura des violences contre les femmes, ce ne sera pas la paix.
Je vais essayer de poser une question en français. J'espère que Maria me comprendra. Je parle très lentement. Je crois qu'un des problèmes et les exemples que tu nous as montrés vont dans ce sens. Un des problèmes à inclure les droits des femmes dans les droits dits humains ou plutôt les droits de l'homme, c'est que ça change la conception des droits de l'homme dans la mesure où ceux-ci traite plutôt de la violence d'un État ou de corps constitués, l'armée, la police, des groupes politiques contre le citoyen ou la citoyenne, alors que les droits des femmes sont souvent attaqués au niveau privé de la famille. Donc ça change cette conception et c'est, je pense, une des résistances à inclure les droits des femmes, c'est qu'on dit c'est de la violence privée.
Yes, I am very glad you asked me that question. Because I must tell you, first of all, that the resistance to include what happens to us in our private lives is a resistance that is based in a lie. The United Nations and the states lie when they say that they can't include women's rights as human rights because they happen in the private sphere and human rights have to do with what happens in the public or what the states do. And when I say it's a lie, I can say it openly because I have read everything that the United Nations and the states worldwide have produced when they discussed about considering slavery as a violation of human rights. Now, if slavery didn't happen in the private sphere, I don't know what does. The masters were private owners of the slaves. Slavery was a private matter. I mean, it's as public as women's issues, but it was a private matter in the sense that they use as an excuse not to include women.
Elle est très contente que Viviane lui ait posé cette question justement sur cette nouvelle conception des droits de la femme, cette nouvelle conception des droits humains qui inclurait des droits de la femme et qui, pour lequel il y a une résistance terrible parce que les droits de la femme touchent à ce qui est privé et pas seulement à ce qui provient de l'action d'un État, de sa police et de son armée. En l'occurrence, elle constate que s'il y a une si grande résistance à inclure dans les droits humains le problème du privé, à son avis, c'est parce que c'est basé sur un immense mensonge. Le mensonge, entre autres, qu'entretient l'ONU, qui dit qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas inclure les droits de la femme parce que c'est privé, et en disant les droits humains, c'est une chose qui concerne tout ce qui est public. Et elle pense que c'est un mensonge parce qu'elle se souvient, entre autres, et elle a lu tous les textes, tous les avis qui sont sortis à propos d'une question comme l'esclavage, par exemple, qui a été reconnue comme étant une violation des droits de la personne. Or, selon elle, l'esclavage est une chose privée dans la mesure où touche au privé, dans la mesure où celui qui possède des esclaves, celui qui traite des gens en esclavage, eh bien, il est le propriétaire privé de ces gens, il n'est pas représentatif de l'action d'un État. Et donc, oui.
So this brings us to the issue behind those definitions. Which you are right, they use them all the time against us, the private, the public. But the truth is also that what is considered violations of human rights is what states do or do not do. And states only legislate for the things that are considered universal. And by universal, they mean what men suffer. And what women suffer, they consider a particularity. So you say what states do, and states are held accountable for what they do in face of international and national law. And it is men who are in the states, and it is men who legislate, and they legislate for their issues. So ours are brought like it is the private sphere, that it is not something done to the states, and this is where it becomes a very complex struggle. On the one hand, should I continue?
No, I prefer to translate. Effectivement, on ressort tout le temps cette opposition privée-publique contre les femmes, et c'est vraiment une chose qui est un argument très important contre les femmes. Ce que l'on considère comme une violation des droits de l'homme, c'est en fait ce que fait l'État ou ne fait pas l'État contre des personnes. Et donc, on fait des lois pour essayer de limiter ces violations et qui devraient toucher à ce qui est universel. Or, est universel, visiblement, ce dont les hommes souffrent ou ce que les hommes subissent. Et ce qui concerne les femmes, eh bien, on considère que c'est des particularités qui n'entrent pas dans cette définition. Comme on considère aussi que violation, c'est donc l'action d'un État qui viole par exemple les lois considérées par tous les États, les lois internationales. Et or, comme ces lois sont faites par des gens dans ces gouvernements, il y a les hommes. Et donc, les hommes font les lois dans le sens de leurs préoccupations. Et celles des femmes sont reléguées dans le privé et ne concernant pas l'État.
And the states have the responsibility of looking for everybody's well-being, if you can call it that, not only half of the citizenship that they have. And I will give you another concrete example to understand this. When a policeman in office rapes a woman or beats her up, He is considered a violator of human rights because he is a policeman. But when that same policeman in his house, being out of office, beats up or rapes a woman, that is not considered a violation of human rights. The real problem with this is that the only ones that are considered human are men if things that occur to women are not considered human rights.
Can you repeat this? I'm sorry.
If only what occurs to men is what is considered a human right, then we are not considered human. Half of humanity have rights to human rights. And on the other hand, if it is only what the state does, what is considered a human right, then civil society is taken away of its responsibility because the state is only the expression of what civil society, how civil society has to organize itself for the betterment of humanity and its citizenship.
Juste avant que nous nous interrompions pour donner la voix à une de nos premières femmes africaines, eh bien, je traduis ce que vient de dire Maria. L'État donc est censé travailler pour le bien de tous, et pas seulement pour la moitié de la population de l'humanité. Alors, un exemple qui est très frappant, bien sûr, est très simple. Lorsqu'un policier dans son commissariat viole une femme, ou là-bas, il est considéré comme ayant violé les droits de la personne. Si ce même policier, chez lui, cette fois-ci, viole sa femme, il n'est pas considéré comme ayant violé les droits de la personne. Alors, si ce qui est considéré comme humain n'est que ce que les hommes vivent, eh bien, les femmes ne font plus partie